Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bienvenue à tous dans ce dernier carnet de région du mois de mars, présenté cette semaine par Nathalie de Radio Margeride. Commençons avec un reportage de Radio Pays d'Hérault, la démocratie participative expérimentée dans le pays cœur d'Hérault. À l'image de Saillant, village du département de la Drôme, les citoyens héraultais sont amenés à faire bouger les choses par le biais du CODEV, le Conseil de développement du pays cœur d'Hérault. Les habitants du territoire proposent des idées aux élus des différentes communes. Plus de 10 ans maintenant que le CODEV existe. Il tente aujourd'hui de relancer la machine démocratique grâce au concept de l'intelligence collective. Reportage à Gignac avec Sarah Gillement de Radio Pays d'Hérault.
Ils sont une vingtaine à se rassembler aujourd'hui à Gignac pour la deuxième phase du projet de démocratie participative. Le mois dernier, ils ont fait une sélection des idées des habitants.
Composteurs partagés à valoriser localement en ville et compost, déchets sur colonne de tri. Ensuite, on a aussi beaucoup le covoiturage, les plateformes, les pistes cyclables, la sécurité routière. Développer les circuits courts, l'habitat partagé, l'énergie renouvelable, s'intéresser à l'agriculture, les jardins de cocagne, aménager les bords de rivière, les cantines bio.
Valérie Lotte est membre du CODEV et conseillère municipale de Pollan.
Aujourd'hui, on va voter pour des idées qui ont été déjà présélectionnées la fois précédente et on va mettre en place des groupes action-projet, c'est-à-dire que sur la base du volontariat, il y a des gens qui vont se mobiliser sur des sujets. On a 5 points chacun et on décide de mettre 1 point sur tel projet, 2 points sur l'autre ou 5 points sur un. Et là, du coup, il y aura peut-être 5-6 gaps, groupes action-projet qui vont sortir aujourd'hui et là, on va travailler tous ensemble sur ça. On ne laisse pas de côté les 20 autres idées qui ont émergé la fois précédente. On fait remonter les idées des citoyens et du coup là maintenant l'idée c'est qu'à partir de ces groupes d'action-projets qui vont émerger aujourd'hui, finalement, le citoyen s'approprie la réflexion et du coup soit une force de proposition. Mais on ne restera toujours qu'une force de proposition.
Être force de proposition, une expérience réussie à Saillant, premier village de la Drôme où les habitants participent directement aux décisions de la commune. Alors pourquoi pas ici? En tout cas, ce lot des voix veut y croire, même s'il y a encore du chemin à faire.
Tout ce qui concerne l'aménagement du territoire me soucie au plus haut point. Donc grâce à ce genre d'initiative réglementaire en plus, c'est le seul moyen, puisque dans les conseils municipaux, les conseils de communautaires, tout ça, il n'y a pas encore la parole donnée aux citoyens, comme en France, comme dans le monde, comme un peu partout. C'est un gros progrès et qui doit encore beaucoup progresser pour arriver à ses fins d'harmonie sociale et humaine.
Jérôme a pu apprendre la méthode appelée partagir, appliquée à Saillant. Aujourd'hui, il est animateur de la séance.
C'est le fait de faire confiance aux gens, de leur permettre de s'auto-organiser et de mener à bien des projets de A à B sans jamais revenir en arrière, même s'il y a des nouveaux qui débarquent, il y a toujours des comptes rendus, des ordres du jour, des choses qui permettent d'y voir toujours clair. Alors il y a le donneur de parole, il y a le gardien du temps, il y a l'animateur, il y a le scribe, il y a pas mal de gestes effectivement qu'on peut trouver, par exemple sur Google, si vous tapez gestes nuit debout, vous allez voir des petits dessins, des tableaux qui expliquent tout ça. Et ça permet de ne pas faire de bruit en réunion, de respecter les autres, de beaucoup s'écouter. Il y a une véritable égalité, un véritable respect de la parole de l'autre.
Donc il y a un temps de parole. Donc par exemple, voilà. Moi si je veux prendre la parole, ça se passe comment?
Vous levez la main et vous serez limité par exemple à 1 minute 30. Selon les réunions, on peut dire on va parler 2 minutes, on va parler 1 minute 30. On limite les gens pour qu'ils aient vraiment un esprit de synthèse de plus en plus développé. Et que les personnes qui ont été dans le passé... on va dire président d'assos ou avec des responsabilités importantes et qui ont l'habitude de parler pendant 10, 12, 13 minutes d'affilée, on va leur couper le sifflet de manière très diplomate, très délicate.
Donc, tout le monde est au même niveau.
Voilà, exactement.
Citoyen, scribe.
Même malgré les rôles, il y a toujours le même niveau. Surtout que chaque rôle, de toute façon, est un rôle qui tourne. Donc la réunion d'après, ça ne sera pas les mêmes personnes. D'accord. Donc il ne peut pas y avoir de prise de pouvoir. C'est ça qui est intéressant avec cette méthode. Dès que vous faites quelque chose, la fois d'après, ça sera quelqu'un d'autre. Et donc petit à petit, chacun se forme à être animateur, chacun se forme à donner la parole. chacun se forme à vérifier le temps, et donc il y a une responsabilisation de tous, et une meilleure conscience, une meilleure écoute de tous les autres, et petit à petit on avance tous ensemble, au lieu d'attendre les directives qui viennent d'en haut, au lieu d'attendre ce que va décider le chef dans un bureau, on est tous dynamiques et en fonction du petit projet dont on va s'occuper, on sait qu'on a toute l'attitude pour le mener à bien. La plénière aura juste un rôle de conseil et non pas un rôle de « ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça », c'est plutôt « ah oui, c'est bien ce que vous avez fait la dernière fois, maintenant peut-être que vous pourriez penser à ceci parce que nous on l'avait fait la dernière fois comme ça ». Enfin voilà, c'est juste une histoire d'échanger des idées, des conseils.
Chacun apprend à se connaître lors de la séance avec bonne humeur, des groupes de situations sont créés.
Tous ceux qui sont déjà venus à une réunion de collègues se lèvent et changent de place.
Et justement, la situation peut paraître un peu déroutante lorsque l'on est spectateur, surtout pour Alexandre. Il accompagne sa femme, mais ne participerait pour rien au monde. La démocratie participative, il n'y croit pas du tout, du moins pas comme ça.
Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Il y a le feu à la maison, c'est pas le moment de s'amuser. Comme dirait l'autre, ce sont là jeux d'enfants. Je ne trouve pas que la démocratie participative soit quelque chose de consternant. Je trouve ce genre de réunion... quelque chose de consternant, ce genre de jeu d'enfant, c'est consternant. La démocratie participative, c'est un hochet. Qu'on s'occupe déjà de mettre simplement la vraie démocratie en œuvre, ça suffirait largement déjà pour qu'on vive un peu mieux.
Qu'importe les sceptiques, six grandes idées sont nées de la réunion sur le tri des déchets, l'aménagement des voies ou encore le développement des énergies alternatives. Tout le monde s'est fait entendre aujourd'hui, à savoir maintenant si les élus locaux vont tendre l'oreille.
Passons maintenant à un sujet de Radio Lodev. Depuis le 16 mars jusqu'au 31 mai prochain, sur le territoire du Lodévois et l'Arzac, se déroule l'opération Soyons Roquefort, organisée par l'intercommunalité et la Confédération Générale du Roquefort. Une opération qui mêle plusieurs moments, comme des spectacles, des débats ou encore une exposition. Le président de la Confédération, Robert Glandière, a présenté cette exposition au micro de Damien Saintès de Radio Lodève lors de son inauguration.
Alors nous sommes ici pour le lancement, l'inauguration de cette exposition photo qui va circuler sur tout le territoire du Lodévois et l'Arzac pendant les prochaines semaines. Donc voilà, présentez-nous cette exposition photo. Vous avez voulu mettre à l'honneur les principaux acteurs qui font le Roquefort, ce fromage très réputé.
Oui, tout à fait, mais à la fois les acteurs et les actions qu'ils font au sein de cette AOP, avec le respect d'un cahier des charges qui part de l'alimentation jusqu'à l'affinage, en passant par la transformation, la collecte du lait, etc. Et cette première étape du parcours de cette exposition démarre ici, mais reste plusieurs jours parce qu'après le Kaila, il y a la Bombe Auriol, il y a l'Odev, je ne le dis pas dans l'ordre, mais c'est vrai que il marque, ça, c'est un point de départ important pour cette exposition.
Oui, parce que le territoire du Roquefort, c'est un territoire finalement assez large, il concerne 5 départements en tout.
6 départements, parce qu'on va jusqu'à aussi dans l'Aude, mais c'est les deux tiers de l'Aveyron, l'ouest de la Lozère et l'est du Tarn, et puis après tous les Raux, le Gard, toute la partie Cossonarde des départements, y compris un peu de l'Aude.
Alors racontez-nous, c'est une exposition qui date depuis 2015, là l'Odev lance sur le territoire cette exposition, mais c'est une exposition que vous voulez amener surtout voilà, les différentes communautés de communes, les différents territoires qui font le territoire du Roquefort dans une optique de communication pour promouvoir le fromage.
Oui, tout à fait, parce que le travail qu'on a fait pendant 2015 sur l'aire de Broquet-Joule a prouvé qu'en fait, nul n'est prophète dans son pays, et puis que parfois, même les personnes qui habitent, parce qu'on n'a pas que des personnes qui sont nées ici, on a beaucoup de populations qui sont arrivées dans nos régions et qui ne connaissent pas bien le Roquefort et les acteurs du Roquefort. Donc c'est important, même pour eux, d'expliquer ce que c'est le Roquefort. Alors cette exposition, elle va tourner, elle va être pendant 2 mois, tout l'été sur la partie sur Roquefort même, et puis elle va tourner sur Rodez, on va être sur plusieurs villes dans la région.
Alors justement, comment se porte le Roquefort? C'est un fromage toujours très apprécié en France et à l'étranger?
Alors, c'est un fromage très apprécié, mais malheureusement on est quand même un produit très marqué, avec du goût. Et à un moment donné, la tentation aurait été de dire eh bien, on va faire un fromage beaucoup plus doux, beaucoup plus transformé. Non, il y a une AOP qui s'appelle le Roquefort. Il faut que le consommateur retrouve ce qu'est vraiment cette AOP, parce que le cahier des charges, on ne le change pas chaque 5 minutes. Et par contre, il faut dire oui, goûter le roquefort, mangez-le de façon différente, peut-être pour atténuer un certain nombre de goûts que vous n'aimez pas, un peu trop salé, un peu trop... Mais mettez-le sur de l'huître avec une chapelure au four, mettez-le sur une feuille d'endive, mettez-le sur du pain d'épices ou avec une poire. Vous avez des tas de façons de consommer le roquefort autrement qu'un plateau de fromage, même si je pense que le plateau de fromage, c'est la façon la principale où on le consomme, mais on est obligé d'évoluer avec le consommateur.
Et au niveau des producteurs, vous êtes combien en tout de producteurs de roquefort ?
Non, on est un peu plus de 1700 points de livraison en G6 parce que, on a, comme c'est un métier et un élevage qui demande de la main-d'œuvre, on est en fait plus de 3000 à travailler sur ces 1700 exploitations. Il y a à peu près 1700 dans l'industrie, entre les fabricants, les affineurs, les collecteurs de lait, etc. Et puis vous rajoutez tous les acteurs qui sont l'appui technique, donc qui viennent, les techniciens qui viennent dans nos exploitations, et tous ceux qui interviennent, que ce soit sur du matériel, sur de l'alimentation, etc.
Et au niveau des producteurs, comment ça se passe ? Vous en cherchez ? Ça devient de plus en plus difficile de trouver des personnes qui soient prêtes à tenir une exploitation de brebis Lacone pour faire du lait pour le roquefort ?
C'est notre défi pour les 5 à 10 ans à venir. Une étude qu'on avait fait au niveau français sur les trois bassins laitiers, que ce soit les Pyrénées-Atlantiques avec leur AOP au Soirati, chez nous, et la Corse qui a aussi une AOP. L'inquiétude qu'on a eue à ce moment-là, il y a une dizaine d'années qu'on a fait l'étude, c'était de dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, ça veut dire aujourd'hui, quand beaucoup de producteurs qui viennent du baby-boom vont prendre la retraite. Je suis de cela. C'est vrai que dans les 2 à 3 ans, il faut trouver des personnes. Et beaucoup d'éleveurs, de jeunes qui s'installeront, qui ne sont pas obligatoirement de notre territoire, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éleveurs avec seulement les enfants qui sont enfants d'exploitants.
Alors l'objectif de cette exposition, c'est bien sûr de promouvoir le fromage, mais peut-être que ça va aussi créer des vocations.
Ah oui, si ça fait créer des vocations, on ne manquera pas de s'en occuper, de leur montrer ce qu'on peut faire dans notre territoire et qu'on peut vivre dans notre contrée, de vivre décemment. Et c'est important de vivre riche, mais d'avoir le temps de sortir, de se promener. Alors riche bien entendu, c'est une façon de m'exprimer, mais il faut que ce soit, notre profession soit viable et vivable.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Enfin, pour terminer ce carnet de région, retrouvons une interview de Martine de Radio Margeride avec Laurent Ocelli, un passionné de botanique, pour nous parler notamment de sa participation au printemps de Metz.
Et je suis en compagnie aujourd'hui d'un animateur culturel indépendant en botanique, intervenant pour l'écomusée de Margeride, l'Office du tourisme et le Pays d'art et d'histoire des Pays de Saint-Flour, qui est également animateur et chroniqueur à Radio Margeride, que je connais bien et que je vais donc tutoyer, puisqu'il s'agit de Laurent Ocelli. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour que tu nous parles de ta participation au printemps de Metz.
Oui, en effet Martine, le printemps de Metz, c'est le dimanche 9 avril, c'est donc dans le département de l'Hérault, au bord de l'étang de Thau, et cette manifestation se passe au parc du Sesquier. Il s'agit en fait de valoriser le printemps et le monde de la nature toute la journée, avec des floralies et des ventes de plantes, l'ouverture des jardins partagés, la rencontre avec le berger, des animations par des associations environnementales, des jeux et des ateliers sur la biodiversité, des conférences, des ateliers composition florale et beaucoup d'autres animations et des spectacles.
Et donc cette journée va se dérouler en deux temps. Premièrement, cette balade.
Alors en ce qui me concerne, oui, c'est en deux temps puisque je vais organiser une balade botanique qui va avoir pour but de découvrir la flore sauvage de ce parc situé dans la ville de Metz. Et donc là, le point de rendez-vous est à 10h à l'accueil de la journée. Et puis sinon, l'après-midi, à 14h, je fais une conférence sur les plantes médicinales et comestibles. Ce sont les fameuses plantes à tisane que l'on retrouve en cuisine. Et donc là, c'est à la salle du Camp Hôtel. Donc là aussi, c'est pas très loin de l'accueil. Et ces animations, bien sûr, sont gratuites. Et l'entrée de cette fête du printemps à Metz, c'est donc dimanche 9 avril, de 10h à 18h au parc du Sesquier. Et l'entrée est libre.
Donc n'oubliez pas ce rendez-vous avec Laurent à Metz dans l'Hérault dimanche 9 avril. Et vous pourrez également le retrouver jeudi 25 mai. Il sera sur l'aire de la Lozère à Lagarde. Pour une autre animation, cette fois-ci, ce sera la découverte des herbes sauvages.
Oui, sur invitation du comité départemental du tourisme de la Lozère. Eh bien, je vais faire une animation sur les mauvaises herbes. C'est une appellation un petit peu péjorative, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de mauvaises herbes. On va parler plutôt de plantes indésirables, puisque justement mon but là pour cette animation, ce sera de valoriser ces herbes soi-disant mauvaises, puisque parmi elles il y a de grandes plantes médicinales et comestibles. Et en fait, l'animation va se faire sous forme de jeu. Je vais ramasser des échantillons le matin que je vais présenter, et les visiteurs pourront tester leurs connaissances sur ces herbes si familières de nos jardins finalement.
Oui, c'est vrai que pour moi il y a beaucoup d'herbes mauvaises dans les jardins, mais cite-nous-en une qui peut être médicinale.
Eh bien, il y en aurait plein, mais bon, la plus emblématique, c'est peut-être l'ortie. L'ortie qui a été qualifiée de mauvaise et puis qui a été un petit peu rejetée, parce qu'on a tous un souvenir d'enfance où on s'est fait piquer par les orties. Alors, on en revient maintenant sur cette plante, puisqu'on s'aperçoit justement qu'elle est très riche en vitamines, en sels minéraux. Elle soigne énormément de problèmes et surtout, eh bien, c'est une plante potagère à part entière. On peut la cuisiner de multiples façons.
Oui, Laurent, et comme tu es indépendante, tu peux organiser aussi des conférences ou des balades. Et on peut donc te contacter au 06 37 08 72 74.
Voilà, tout à fait. S'il y a des associations ou des comités de tourisme, des municipalités qui sont intéressées, eh bien je peux leur proposer bien sûr un devis gratuit.
Voilà, donc n'oubliez pas ces deux journées en compagnie de Laurent Ocelli. Tout d'abord, je vous le répète, dimanche 9 avril à Metz dans l'Hérault, et il sera jeudi 25 mai sur l'aire de la Lozère à Lagarde.
Les rendez-vous sont donc notés. C'est la fin de ce carnet de région.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.